VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Bamako, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. Génocide de 1994 au Rwanda, un Suédois d'origine rwandaise accusé de génocide comparaîtra à partir du 12 septembre devant une chambre spécialisée du tribunal de Stockholm en Suède. Les autorités judiciaires suédoises précise ce mercredi que Théodore Tabarot, 49 ans, est inculpé de meurtre, tentative de meurtre, viol et enlèvement contre la minorité Tutsi au Rwanda. Les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre le 9 avril et le 31 mai 1994 dans les secteurs de Winteko, Nyakanina et Imbirizi, dans le sud-ouest du Rwanda. Le prévenu, qui figure sur la liste des génocidaires recherchés publiée par le parquet rwandais sur son site internet, aurait participé au génocide non seulement dans un rôle d'organisation, de recrutement et d'incitation, mais aussi d'exécution des massacres. Au moins 36 morts et 7 victimes de viol ont été identifiées et une trentaine de rescapés et proches des victimes se sont portés partie civile. L'accusé nie les faits, a indiqué à l'AFP la procureure suédoise Anna Lemoine. Au Kenya, le principal candidat de l'opposition Raila Odinga conteste la date du 17 octobre fixée par la commission électorale pour le prochain scrutin présidentiel et souhaite la prise en compte de tout candidat éligible. L'opposant veut aussi un audit approfondi du système électronique de la commission et il exige la démission de plusieurs de ses membres. Mais son rival, le président sortant Uhuru Kenyatta, rejette tout remaniement en profondeur de la commission électorale. Benoît Hazard, chargé de recherche au CNRS et spécialiste du Kenya, pense que le pays fonce tout droit vers un bras de fer.
Je pense que le positionnement qui est celui de Raila Odinga, quand il dit qu'effectivement il se retirera de l'élection si le processus ne peut pas aboutir, est un positionnement qui va là, non pas du côté du juridique et du recours à la Cour suprême, mais plutôt du côté de l'appui de la rue. Il y a trois jours, Ruto et Kenyatta se sont rendus dans le comté de Narok, qui leur était acquis en 2013. Ils ont été hués par la foule, décrits comme des voleurs, dans un comté qui ne leur est plus, a priori, acquis. Il y a un vrai rapport de force, y compris avec les forces de la rue, qui est en train de se constituer.
Benoît Hazard, chargé de recherche au CNRS et spécialiste du Kenya. Au Mali, un soldat malien a été tué ce mercredi matin au marché de Ménaka, l'une des capitales régionales du nord du pays, lors d'une tentative de vol d'un véhicule militaire. C'est ce qu'annoncent les FAMA, les forces armées maliennes. Le militaire a péri lors d'un échange de tirs avec des assaillants qui ont pris la fuite, précise le communiqué de l'armée malienne. Depuis la fin juillet, cette ville du nord du Mali est sous le contrôle des combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, qu'il avait reprise sans combattre au groupe armé pro-gouvernemental Gatia, groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali et les FAMA sont également présentes sur place. Mardi, deux casques bleus ont été tués et deux autres grièvement blessés lorsque leur véhicule qui faisait partie de convoi logistique a heurté une mine ou un engin explosif à environ 15 km d'Agelog dans le nord-est du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a également adopté à l'unanimité hier une résolution créant un régime général de sanctions pour le Mali à la demande de Bamako. Des experts en défense et sécurité ont suggéré mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso, la mise en place d'un pont Marshall pour faire face aux défis sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, théâtre d'une série d'attaques djihadistes. Les détails avec Jean-Roger Bion.
L'idée d'un plan Marshall a germé dans le cadre d'un colloque ouvert hier dans la capitale burkinabé en présence de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Le colonel Denis Auguste Barry, directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité et ancien ministre burkinabé de la sécurité, a mis les pieds dans le plat en proposant d'entrée de jeu la mise en place d'un plan Marshall ou d'un programme spécial d'endettement encadré pour permettre aux États de s'équiper de façon appropriée pour faire face aux défis sécuritaires. L'idée, soumise aux experts venus des quatre coins du monde, a pour but de pallier les insuffisances chroniques des systèmes de défense et de sécurité des pays sahéliens. En ce moment même, les pays du G5 Sahel peinent à mobiliser 400 millions d'euros nécessaires pour la mise en place d'une force conjointe antiterroriste. Le Burkina Faso a été frappé mi-août par un attentat djihadiste contre un restaurant à Ouagadougou qui a fait 19 morts et 21 blessés. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont régulièrement touchés par des attaques djihadistes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, les supporters de nombreux partis d'opposition se rassemblent aujourd'hui dans 10 villes du pays ce mercredi pour manifester. Le gouvernement a joué l'apaisement en annonçant des réformes constitutionnelles hier en Conseil des ministres au sujet de la limitation des mandats et aussi le mode de scrutin que l'opposition réclame depuis plus de 10 ans au régime du président Faure Gnassingbé. Mais malgré ce geste du gouvernement et du chef de l'État, l'appel à manifester dans les 10 villes a été maintenu. Niger, l'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé mardi une alerte sur les risques d'inondation à Niamey, la capitale nigérienne, où des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin. Des inondations qui touchent plusieurs régions du Niger, comme en témoigne l'assistante au programme environnement de PNUD Niger, Salamatou Ima Mounkaila.
Actuellement, il pleut beaucoup à Niamey. Comme c'est la saison pluvieuse, plus précisément en août, vous savez, il pleut beaucoup ici. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'inondations.
Parlez-moi un petit peu de la situation à Dakoro. Est-ce qu'il pleut également là où vous êtes?
Bien sûr, il pleut beaucoup là-bas. Parfois, tellement que les maisons tombent et c'est difficile de sortir sous la pluie. Bon, au Niger, comme nous, naturellement, on n'est pas habitué à beaucoup de pluie. Donc, quand il pleut, les gens ne sortent pas ici. Parce que nous, on n'a que 3 mois de saison pluvieuse en tout dans l'année.
Alors, vous êtes spécialiste du changement climatique. Est-ce que pour vous, oui, il s'agit juste d'une saison complètement normale ou est-ce que le réchauffement climatique entraîne plus de pluie torrentielle et plus d'inondations?
Voilà. C'est clair que c'est dû au changement climatique parce que ça fait quand même quelques années que ce n'est pas la même situation qui s'est passée ici au Niger et partout d'ailleurs à l'intérieur du pays.
Qu'est-ce qui a changé?
Ça a changé parce que là, durant la saison pluvieuse, les 3 mois où il pleut ici abondamment, il pleut beaucoup, il y a des inondations, il y a des torrents, il y a plusieurs catastrophes, quoi. Et il y a même des noyades, tout ça dans l'eau. Et le fait que les maisons sont détruites aussi. En plus, quand il fait chaud aussi, il y a un changement. Il fait très chaud ici, au Niger. Là, il fait plus chaud. Et les pluies sont rares et quand les pluies viennent, c'est des pluies diluviennes.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de contrer ces inondations, à votre avis?
Moi, je pense que pour contrecarrer ces genres de fléaux, il faut essayer de juste sensibiliser la population par rapport à ces genres de pluies-là. Déjà, nous, notre projet là-bas à Dakar, on a mis en place des pluviomètres. On apprend aux villageois à lire les millimètres de pluie qu'ils ont reçus et tout ça. Si quand il y a beaucoup de pluie, au moins, ils peuvent nous communiquer. Il faut évacuer, il faut sensibiliser parce que on a toujours dit qu'on ne peut pas lutter contre les changements climatiques, mais on peut mettre en place des options d'adaptation, en fait. C'est-à-dire, on peut aider la population à s'adapter, mais on ne peut pas carrément empêcher ces changements-là.
Salamatou Ima Mounkaila, assistante au programme environnement du PNUD Niger, jointe à Dakoro dans le sud du pays par Claire Morin-Gibourg. Et pour terminer, ici aux États-Unis, des législateurs clés appellent à l'adoption d'un projet de loi pour protéger quelques 800 000 Dreamers, c'est-à-dire des jeunes en situation irrégulière après être entrés dans le pays en bas âge en compagnie de leurs parents. Le président Donald Trump a mis fin au programme de son prédécesseur Barack Obama qui permettait à ces jeunes sans papier d'étudier et de travailler ici aux États-Unis. Le Congrès doit trouver un compromis sur ce dossier avant le 5 mars 2018. Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, analyse les intentions du président Trump.
Le président a été très intelligent à le mettre dans le même du Congrès. Pourquoi? Parce qu'il veut, d'un côté, maintenir la pureté de ses promesses, de son message à ceux qui ont voté pour lui. Si le Congrès ne passe pas une loi dans les prochains 6 mois, je dois agir parce qu'on doit faire quelque chose. Si le Congrès approuve une loi qui signifie l'expulsion de ces jeunes gens, il peut toujours dire « je demandais l'opinion des élus du pays, je ne l'ai pas fait moi-même ». S'ils ne le font pas, il peut dire « le Congrès n'est pas actif, on ne peut pas compter sur eux, ils sont toujours dans des luttes idéologiques, mais je sois le président, je sois un homme d'affaires, je dois intervenir, je dois faire quelque chose pour sauver le pays et je n'ai pas le choix ».
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University, ici à Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.